Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Juste le temps que je prépare mes notes. Alors, puisque c'est le début d'une nouvelle année, je voulais vous transmettre mes vœux. Voilà, donc peut-être que certains connaissent déjà ce verset. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que tu l'es spirituellement. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. C'est un verset que j'aime bien utiliser parce que c'est, surtout avec les non-croyants, c'est toujours une occasion de témoignage. Et avec tous les SMS qu'on reçoit en début d'année, systématiquement, que les gens soient chrétiens ou pas, je réponds avec ce verset. Et je trouve que c'est une bonne occasion de témoignage. Mais c'est aussi vrai pour nous qui sommes chrétiens. Et c'est vrai qu'être en bonne forme et en bonne santé physique, c'est effectivement important, mais c'est tout aussi important d'être en bonne santé spirituelle. Et autant être en bonne santé physique, ça ne dépend pas à 100% de nous. Bon, c'est sûr que si je sors en caleçon dans la neige, ça ne va pas jouer en ma faveur, mais il y a beaucoup de fois où on tombe malade, on ne pouvait pas anticiper, et on n'a pas le contrôle de ça. Par contre, je pense qu'on a beaucoup plus la main sur notre santé spirituelle. Et donc, on va voir ce matin comment on peut s'occuper de cette santé spirituelle. Alors, je vais vous proposer une lecture, si vous voulez ouvrir vos Bibles, dans Exode, au chapitre 32. Volontairement, je n'ai pas affiché le passage pour que vous puissiez suivre dans vos Bibles. Donc, Exode, chapitre 32. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre, parce que ce serait très long. Je vais juste le survoler, je vais lire quelques versets par-ci, par-là. Je vous dirai les versets que je lis au fur et à mesure, bien entendu. Donc on va quand même commencer avec le verset 1, et on va lire les 5 premiers versets. Ouais, évidemment. Et donc, Exode 32, verset 1, jusqu'au verset 5. Je fais traîner parce que j'ai perdu un verre sur mes lunettes. Voilà. Voilà, tac. J'ai passé l'âge où sans les lunettes, ça devient compliqué de lire. Excusez-moi. Donc, 32 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabriquons-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il proclama « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Donc là, on voit que Moïse est parti sur la montagne pour que Dieu puisse lui remettre la loi. Et a priori, il est parti un peu trop longtemps au goût du peuple. Et on voit le peuple qui commence à partir à la dérive. Alors, je vais lire les deux versets suivants, 6 et 7. « Le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. » Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. » Donc là, forcément, Dieu voit le comportement du peuple, et donc il prévient Moïse, et il demande à Moïse de retourner les rejoindre, parce qu'il n'y a plus rien qui va avec le peuple d'Israël. Alors on va sauter quelques versets, on va passer au verset 19. Et je vais vous lire les versets 19 et 20. « Quand Moïse fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les cœurs de danse, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau. Puis il fit boire cette eau aux Israélites. Donc là, on voit une colère qui naît en Moïse, et on voit qu'il y a des sanctions qui tombent. Je ne sais pas si vous imaginez boire de l'eau avec de la poudre d'or, et ça va être un peu spécial. Moi, j'ai un vieux souvenir de médicaments quand j'étais gamin, c'était des ampoules à base de métaux, je ne sais pas quel métaux il y avait dedans, c'était dégoûtant. Et voilà, je préfère largement le sirop à la framboise, et j'aurais pas aimé être à la place des Israélites en tout cas. Alors, ça c'était versets 19 et 20, et on va finir avec les versets 25 à 28. Donc verset 25, « Moïse vit que le peuple était déchaîné. Aaron l'avait laissé faire, de sorte qu'il s'exposait au mépris de ses ennemis. Alors il se posta à l'entrée du camp et s'écria, « Que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. » Tous les membres de la tribu de Lévi, se rallièrent à lui. Il leur dit, « Voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Parcourez tout le camp, allez d'une tente à l'autre. Que chacun tue jusqu'à son frère, son ami, son proche. » Les Lévites obéirent à Moïse de sorte que ce jour-là, environ 3000 hommes du peuple perdirent la vie. Alors, assez bizarrement, c'est ce dernier passage qui va particulièrement m'intéresser ce matin. Et pour bien commencer l'année, on va parler de séparation, on va parler de pleurs, on va parler d'épée, et on va parler de mort. Voilà le programme très joyeux de ce matin. Alors ça peut vous paraître une drôle de façon de souhaiter une joyeuse année, mais bon, on va développer autour de ça. Alors souvent, le début d'année, c'est le moment des nouvelles résolutions. Alors moi, je ne suis pas très fan des nouvelles résolutions parce qu'elles sont souvent faites pour les oublier le lendemain. Donc, comme ça, j'évite de les prendre, comme ça, je suis sûr de ne pas les oublier. Non, pour moi, en fait, en tant que chrétien, finalement, être chrétien, c'est une démarche de tous les jours. Et en fait, les nouvelles résolutions devraient être prises tous les matins. Tous les matins, je devrais me remettre en question, tous les jours je devrais remettre en question ma vie avec Dieu. Et si j'ai envie d'avancer avec le Seigneur, c'est une démarche de tous les jours. Donc c'est aussi une résolution de tous les jours. Mais si on devait prendre une résolution aujourd'hui pour 2025, même si ce n'est pas une nouvelle résolution, ce serait tout simplement de marcher avec Dieu. Alors pourquoi j'ai choisi ce passage ? Parce qu'on voit aussi que Moïse demande au peuple de prendre position pour son Dieu. Et on voit ça au verset 26 qui nous dit « Alors Moïse se posta à l'entrée du camp et s'écria « Que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. » Et donc j'ai envie de vous poser cette question ce matin. Combien d'entre vous veulent se lever pour Dieu ? Voilà, 1, 2, 3, allez, 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 qui veut se lever pour Dieu ce matin ? Voilà, c'est super. Voilà, vous pouvez vous rasseoir. Mais au moins, vous vous rappellerez qu'en ce début d'année, vous vous êtes levé pour votre Dieu et vous avez pris position pour lui. Et puis ça vous met en condition pour la suite du message, c'est bien aussi. Alors c'est bien parce que ce matin on est beaucoup à s'être levé, mais est-ce qu'on est prêt à se lever tous les jours pour notre Dieu cette année ? Et en préparant ce message, j'ai pensé aux militaires qui tous les matins vont se lever et faire le salut devant le drapeau. Et quelque part, il y a une symbolique derrière ça, de cet engagement quotidien à servir son pays. Et moi, je voudrais aussi vous encourager cette année à vous lever chaque matin pour servir votre Seigneur. Alors, on n'a pas de drapeau, mais chacun peut avoir son rituel. Ça peut être sous la douche. Après, chacun prend son temps avec Dieu comme il le souhaite. Mais voilà, tous les matins, se réengager avec Dieu, jour après jour. Tous les matins, remettre sa journée entre ses mains en lui disant quelque chose comme « Aujourd'hui, j'ai encore envie de te servir et que cette journée puisse être à ta gloire. » Alors, c'est facile de dire ça ce matin parce qu'on a toutes les bonnes conditions réunies pour le dire. On est à l'église, on est avec les frères et sœurs, on a loué l'Éternel ce matin, on a chanté, on a prié, on a pris la scène. Donc c'est facile de s'engager avec Dieu là tout de suite maintenant parce qu'on est dans les meilleures conditions pour le faire. Mais j'imagine qu'il y a des matins où ça peut être beaucoup plus compliqué. Hein, peut-être qu'on va se lever, par exemple, pour... Moustapha en parlait, pour un enterrement. Ou peut-être que la veille, je me suis planté à un examen. Ou je sais que là, aujourd'hui, je vais avoir rendez-vous avec mon patron et qu'il y a probablement un licenciement à la clé. Et il y a plein de choses qui font qu'on va avoir notre esprit préoccupé à autre chose qu'à remettre notre journée entre les mains du Seigneur, parce qu'on est pris par le piège de nos pensées et on laisse nos soucis prendre le dessus. Et des fois, parce que les choses ne vont pas comme on voudrait, on oublie de faire ce salut sous le drapeau de notre Dieu et nous réengager à le servir chaque matin. Je me rappelle, il y a très longtemps, je bossais avec un gars qui était parti 3 mois former une entreprise dans le domaine industriel en Chine. Et c'était une grosse société là-bas. Et tous les matins, l'ensemble des salariés chantaient l'hymne national devant le drapeau chinois. Et alors, peut-être qu'eux faisaient ça sous la contrainte, mais si eux le faisaient, nous, on peut le faire dans un élan de bonne volonté chaque matin. Et voilà, ma prière, c'est vraiment qu'on puisse se lever pour Dieu tous les matins de cette année 2025 et tous les jours de notre vie, d'ailleurs. Et dans le passage qu'on a lu ce matin, on voit que c'est exactement ce qui se passe avec le peuple juif qui se laisse prendre par l'inquiétude et qui commence à oublier de s'en remettre à Dieu pour finalement partir à la dérive complète. Et on voit que Moïse est parti, je dirais une cinquantaine de jours, hein, puisqu'il est parti, il a attendu 6 jours l'Éternel, après il a passé 40 jours avec lui, le temps qu'il revienne, etc. Bon, on est à peu près à 50 jours. Et donc, ça fait 50 jours que le peuple n'a pas vu Moïse, et il commence à s'inquiéter, alors qu'a priori, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Parce que j'ai rien contre Moïse, c'est un grand homme de Dieu, et on parle de lui ce matin, c'est bien que c'est une référence, mais la vraie référence, ça n'aurait pas dû être Moïse, ça aurait dû être Dieu pour le peuple. Et on peut se poser cette question dans nos propres vies, combien de fois on s'appuie sur les choses du monde ou sur d'autres personnes plutôt que de s'appuyer directement sur Dieu. Et en fait, ce peuple, il a tellement été guidé par Moïse qu'il en a presque oublié Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, on peut être admiratif d'un autre chrétien qui va peut-être nous servir de modèle. Et en soi, il n'y a rien de négatif à ça. Mais il faut toujours se rappeler que cette personne n'est qu'un modèle qui nous aide à suivre l'Éternel. Et que la personne qu'on suit, ce n'est pas cette personne, c'est bien l'Éternel. Et il faut qu'on se rappelle que Dieu doit toujours prendre la première place dans nos vies. Et en fait, là, le peuple d'Israël a eu les yeux tellement fixés sur Moïse que quand Moïse s'en va, eh bien, tout s'écroule. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler de remettre chaque matin notre journée, notre vie, nos activités entre les mains de Dieu. Ça nous évitera de partir à la dérive comme l'a fait le peuple d'Israël dans cette histoire. Et donc là, on voit Moïse qui s'absente pendant une cinquantaine de jours. Et parfois, dans nos vies, on peut aussi avoir cette impression que Dieu s'est absenté ou qu'il n'est pas là. Même si ce n'est pas le cas, évidemment. Et des fois, on rentre dans des fausses idées que Dieu est parti et qu'il n'est plus là et qu'il s'est absenté pendant 50 jours, pendant 50 mois, pendant 50 ans. Je pense par exemple à ma mère, je pense que ça fait plus de 50 ans qu'elle prie tous les jours pour la conversion de mon père. Et encore aujourd'hui, elle n'a pas de réponse à sa prière, mais elle continue à prier jour après jour. Pardon. Pour mon papa. Et Dieu ne répond pas forcément systématiquement à nos prières, mais pourtant on sait qu'il est là et il est présent et il prend soin de nous. Et si on remet chaque jour notre journée entre ses mains, qu'on croit qu'il est là ou qu'il n'est pas là, je peux vous garantir qu'il est là et ça nous évite de partir à la dérive comme l'a fait ce peuple d'Israël et qui est arrivé, on va le voir un peu plus tard, à des sanctions terribles. Et il y a aussi le fait que des fois on a l'impression que Dieu il n'est pas là, mais si on ne lui demande pas d'être avec nous, il ne va pas s'imposer. D'où l'importance d'être en relation quotidiennement avec lui et de remettre nos journées entre ses mains. Et ça doit vraiment être, j'insiste beaucoup dessus, mais ça doit vraiment être une démarche quotidienne d'inviter Dieu dans nos vies et c'est primordial. Voilà, donc tous les matins, on devrait être dans cette position et inviter Dieu à conduire nos journées. Alors, on a vu dans le passage de ce matin que non seulement Dieu nous demande de nous lever pour lui, et on l'a fait ce matin, mais il nous demande aussi de prendre position et de choisir notre camp. Alors j'avais prévu de mettre une ficelle ou une corde au sol, mais je me suis dit que tout le monde ne verrait pas. Donc j'affiche la corde au mur à la place. Et donc le principe du camp, c'est de choisir son camp et d'y rester. Et le principe du camp, c'est que quand on est dans un camp, on n'est pas en train de faire ça en permanence et de passer d'un camp à l'autre. À partir du moment où on choisit un camp, on prend position et on s'établit dans ce camp. Et dans notre cas, le choix qu'on a, c'est soit ce camp-là, soit bon, j'ai envie d'y aller, mais soit le camp d'à côté, là. Voilà. Et des fois, on va être du bon côté, et puis on va prier, et puis on va dire « Ah Dieu, il ne répond pas à mes prières », et on va commencer à se plaindre. Et hop, on va passer du camp là-bas au camp ici. Ou pire, des fois, on fait même ça. On se met là, et puis on met un pied de chaque côté. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, malheureusement, oui, mais... Et Dieu nous demande vraiment de prendre position. Il ne veut pas nous voir ici, mais il ne veut pas non plus nous voir avec un pied dans chaque camp. Choisir son camp, c'est être ici. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'armée. Ben, en cas de guerre, c'est pareil. Un soldat, il n'est pas un jour dans un camp et le lendemain dans l'autre. Bon, on a vu des fois des changements de camp, mais en règle générale, le soldat est toujours dans le même camp. Et il sert toujours le même pays. Et donc nous, on est toujours dans le même camp, et on sert toujours le même Dieu. Mais malheureusement, ça arrive souvent qu'on soit un petit peu comme ça. Et ça peut se voir, par exemple, dans notre vocabulaire derrière le volant de notre voiture. C'est juste un exemple. Ça peut être aussi dans les blagues qu'on raconte. Et moi, je pense à il y a longtemps, quand j'étais jeune, je suis allé au cinéma une fois et j'ai vu un film que j'ai adoré. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai tellement aimé ce film que je suis allé le voir 3 fois de suite. Et j'en ai fait la pub, j'ai emmené plein de monde avec moi à le voir. Et je disais aux gens, il faut aller le voir et tout. Et puis des années après, j'ai réagi qu'en fait, ce film, il était à l'opposé de ce que Dieu m'enseignait dans sa parole. Et que soit ma vie, elle était avec Dieu, soit elle était dans l'état d'esprit de ce film. Mais je ne pouvais pas vivre des deux côtés en même temps. Et j'étais typiquement ici. Alors évidemment, je ne vous donnerai pas le nom du film. Mais c'est juste pour illustrer que des fois, on a notre vie où on se croit le bon petit chrétien. Et on pense qu'on est en plein milieu de ce temps et que tout va bien. Mais en fait, on est ici. Et on a un pied ici où on prie, on lit notre Bible, on encourage les frères et sœurs dans l'église, on prêche le dimanche matin. Et en parallèle, eh ben on va voir un film qu'on ne devrait pas aller voir, on va insulter un collègue au travail parce qu'il nous a énervés, ou insulter le gars qui a grillé le feu rouge devant nous, etc. Et donc, faut toujours être vigilant sur où on se trouve, parce que Dieu, lui, ne nous demande pas d'être ici, mais bien ce camp-là. Et à l'époque du roi Akab, donc ça remonte un petit peu dans l'Ancien Testament, le roi Akab s'était tourné vers Baal et avait entraîné tout le peuple avec lui. Et Akab a quand même le culot de se plaindre auprès d'Élie parce que c'est la sécheresse. Et donc, Élie lui fait comprendre que dans la vie, il faut faire des choix. Il faut choisir son camp. Et donc, il va dire au peuple, jusqu'à quand clocheras-tu? Et donc, c'est pareil dans nos vies, on peut se poser la question, jusqu'à quand clocherai-je? Et donc, il faut arrêter de clocher et de se mettre dans le bon camp. Et je voudrais vous partager un verset qui est très parlant. Dans Luc, au chapitre 11, le verset 23. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et je crois que le verset, il est très clair. C'est « Choisis ton camp, camarade. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. » Et clairement, Dieu nous demande de prendre position. Et on voit qu'il n'y a pas d'alternative. Et on peut voir dans Exode au chapitre 20, les versets 4 à 5, l'importance de choisir son camp. Et donc Dieu dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et donc, on voit dans ce passage qu'on a affaire à un Dieu jaloux et qu'il faut absolument qu'on fasse un choix et que nos choix, selon qu'ils soient bons ou mauvais, auront des répercussions. Et si on fait les mauvais choix, ça pourra avoir des répercussions qui sont sévères. Et c'est dans la traduction du Summer, je crois, à la place de « Je suis un Dieu jaloux », Dieu dit « Je n'accepte pas de Dieu rival » ou quelque chose comme ça. Et donc ce mot « rival », « rivalité » montre que si je ne suis pas avec Dieu, je suis contre Dieu. Et donc, dans l'histoire de ce matin, on voit cette application d'Exode 20. Et donc, Moïse va demander à tous ceux qui sont pour l'Éternel de se lever vers lui. Et ensuite, Exode 32, verset 27, Moïse leur dit, « Voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. » Parcourez tout le camp, allez d'une tente à l'autre, et que chacun tue. Donc déjà là, c'est violent, et la suite est encore plus forte, jusqu'à son frère, son ami, son proche. Et choisir son camp, ça demande de prendre une position ferme. Et ce n'est pas toujours simple. Dieu nous demande un réel engagement avec lui. Et même si ça doit être au détriment de notre entourage proche. Et avec Dieu, il n'y a plus de question d'affinité, d'amis, de frères, de mères. Et la seule question qui se pose, c'est est-ce que je suis avec Dieu ou est-ce que je suis contre Dieu ? Alors vous pourriez me dire, oui, mais bon, t'es bien gentil avec ton histoire de Moïse, mais c'est quand même un peu vieux comme histoire, c'est l'Ancien Testament, depuis Jésus est venu, et donc il a tout changé. Alors je voulais juste vous rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 10, versets 34 à 37. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père. » La fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et donc, on retrouve la même situation qu'avec Moïse et le peuple qui fait tomber des sanctions qui sont dures et sévères. Sauf que là, c'est un passage du Nouveau Testament. Et là, on est sûr et certain que ça s'adresse 100% à nous. Et donc, nous devons prendre position pour Dieu. Et si on prend position, ça veut dire qu'on sait qui on doit mettre aussi en priorité dans notre vie. Dieu plutôt que les amis et la famille. Et je voudrais vous partager un autre verset qui nous invite à mettre la priorité sur Dieu. C'est en Luc, versets 59 à 62. Jésus dit à un autre, « Suis-moi !» Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Et donc on voit que Dieu nous demande un choix et que c'est un choix qui doit être fait tout de suite. Et c'est des versets, des passages qui sont durs. Et des fois, on aurait envie de fermer un peu les yeux sur ces passages-là. Et à qui c'est pas arrivé un matin de se dire oh, j'ai pas le temps de prier là, j'ai un appel à passer, j'ai un client à aller voir, j'ai une course à faire, j'ai un rendez-vous important pour le travail, j'ai une prédication à terminer. Et facilement, on va vite trouver une excuse pour démarrer tout de suite notre journée sans prendre le temps de la démarrer avec Dieu. Et bien entendu, je suis le premier concerné. Mais on voit dans ce passage que Dieu nous dit « Non, c'est moi d'abord. Et si tu veux me suivre, alors c'est moi d'abord dans ta vie. » Et donc, j'aurai une question à te poser ce matin. Qu'est-ce qui passe avant tout dans ta vie? Et c'est une décision, une position à prendre maintenant. Quand Jésus reviendra, ce sera trop tard. Alors certes, on pense qu'on a la vie devant nous pour réfléchir, mais quand ce sera terminé, ce sera trop tard pour choisir. Et comme on ne sait pas quand Jésus reviendra, ni quand notre vie se terminera, c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut prendre position avec Dieu. Si Jésus revient demain ou dans 5 minutes, quel aura été mon choix quand il va arriver? Parce que quand il va arriver, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut que je fasse ce choix avant qu'il soit trop tard. Et dans quel camp je veux me trouver quand Jésus revient? Ça, il n'y a que vous qui avez la réponse à cette, à cette question. Et juste vous rappeler que quand il arrivera, Matthieu 13, 40 et 43, comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, entende. Et donc, on retrouve exactement la même situation qu'avec Moïse et le peuple de Dieu il y a quelques milliers d'années, sauf que là, on est directement concerné par ces textes. Et un jour, l'Éternel reviendra et il prendra l'épée et tous ceux qui ont choisi le mauvais camp passeront au fil de l'épée, comme dans notre histoire de ce matin. Et le peuple juif a dû faire un choix et assumer le choix, et ceux qui ont fait le choix de l'autre camp en ont subi les conséquences. Et pareil pour nous, on a ce choix à faire, sachant que selon le camp dans lequel on est, on passera ou pas au fil de l'épée de l'Éternel. Alors ce matin, c'est bien, on est armé avec toutes les informations nécessaires pour faire notre choix, mais ça reste un choix personnel. Il n'y a personne qui pourra faire ce choix à votre place. C'est à vous de décider si vous souhaitez ou non ce matin prendre position avec votre Dieu. Alors ça paraît être un contexte un peu difficile après tout ce que je viens de dire, de parler de l'amour de Dieu. Pourtant, on est en plein dedans. Et malgré ce qu'on vient de dire, je voulais quand même vous rappeler que Dieu est un Dieu de grâce. Et donc, je voulais vous illustrer ça. Tac. Avec ce paquet de bonbons. Si par exemple, je propose ce paquet de bonbons à Mustapha et qu'il le refuse, ça ne change rien au fait que moi, je l'aime. Et c'est son choix de l'accepter ou non, de prendre position sur ce paquet ou non. Mais moi, dans tous les cas, j'ai envie de lui donner et je l'aime. Après, c'est son choix à lui. Et s'il ne veut pas recevoir ce paquet de bonbons, je le laisse libre de ne pas le recevoir. Mais ça n'empêche pas que moi, de mon côté, je l'aime et j'ai envie de lui donner ce paquet de bonbons. Et si dimanche prochain, Mustapha, il revient me voir et me dit « Ah bah finalement, j'ai changé d'avis et je voudrais bien le paquet de bonbons » et que moi, je l'ai déjà donné à Elliot qui s'est presque levé pour récupérer le paquet, je lui dirais bah, « Je suis désolé, Mustapha, c'est trop tard, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je veux pas te le donner, mais c'est trop tard. » Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà. Par contre, si la semaine prochaine, Mustapha vient me voir et que je l'ai pas donné à Elliot, avec grand plaisir, parce qu'il est encore temps, je le donnerai à Mustapha. Voilà. Alors, c'est un peu enfantin de représenter l'amour de Dieu par des bonbons. C'est un peu plus que des bonbons, l'amour de Dieu. Mais voilà, je pense que vous aurez compris l'image. Et je trouve que ça illustre bien notre responsabilité. Et si on n'a pas accepté les bonbons, Mustapha, s'il n'accepte pas les bonbons, il ne peut pas remettre ça sur mon dos. C'est lui qui ne les a pas voulu, c'est à lui d'assumer son choix, c'est lui qui doit assumer le fait qu'il n'a pas voulu des bonbons. Et c'est pareil avec nous, si on ne veut pas de Dieu, on a le droit, on a le droit de faire ce choix-là, mais on ne peut pas après reprocher à Dieu les conséquences de nos choix. Et finalement, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Alors je voudrais vous lire une petite histoire tragique qui illustre bien ce fait que quand c'est trop tard, c'est trop tard. C'est dans Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. Donc c'est pareil si vous voulez suivre avec moi dans vos Bibles. Versets 19 à 31. « Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa. le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous, ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Et donc on voit cet homme riche qui a eu sa part de bonbons qui lui a été préparée de son vivant, mais il n'en a pas voulu. Et quand il s'en rend compte, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, on voit bien dans cette histoire, c'est trop tard. Et il essaye même de sauver le reste de sa famille, mais on lui dit, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et dans nos vies, c'est pareil. Et c'est un peu triste l'histoire de cet homme-là. Il fait un peu de peine. Et on a tellement de gens autour de nous qui sont dans cette même situation et qui font de la peine. Mais il faut bien qu'ils aient conscience que c'est aujourd'hui qu'il faut faire un choix, parce que demain, quand Jésus reviendra, ce sera trop tard. Et que c'est pendant ton vivant que tu dois prendre position. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Alors, je voulais quand même rappeler ce matin que Dieu nous aime et qu'il veut qu'on se lève pour lui. Et c'est à chacun de nous de le faire et de saisir cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Alors je voulais quand même finir toute cette histoire sur une bonne note. Donc c'est la fin qu'on n'a pas lue ensemble de Exode 32 et c'est le verset 29. Moïse dit, « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Et on voit que, bah oui, c'est vrai que prendre position pour l'Éternel, ça signifie mettre de côté ses amis, parfois ça peut même signifie mettre de la famille de côté, ça veut peut-être dire mettre des choses dans sa vie de côté, mais la conséquence, c'est qu'on aura les bénédictions de l'Éternel. Et juste pour vous montrer que ça reste vrai pour nous et qu'on retrouve l'équivalent dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 19, verset 29, « Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. » Alors ça nous permet de finir sur ce partage sur une note un peu plus joyeuse. Et donc je voulais vraiment vous encourager pour 2025 à prendre position, non seulement pour 2025, mais pour le reste de notre vie, et que ça puisse être une décision quotidienne de vous lever pour Christ, de prendre position et de choisir votre camp. Et je voulais juste vous laisser avec une lecture d'un des feuillets que j'ai eu cette semaine, qui dit « Que votre vie cachée porte du fruit et rend témoignage à la vérité. Que votre marche intérieure soit agréable au Seigneur et que vos comportements le glorifient. Que les courants de vos pensées soient renouvelés et sanctifiés par la connaissance de sa personne. » Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Que votre bouche soit remplie de louanges à Dieu, que chaque jour elle le glorifie. Que votre cœur soit rempli de bons vœux pour le Seigneur, en même temps qu'il se vide des vanités de ce monde. Et quoi que vous fassiez cette année, que tout soit à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Et donc je propose qu'on finisse juste par un moment de prière. Alors j'ai demandé à tout le monde de fermer les yeux pour ce moment de prière, et que tous ceux qui souhaitent s'engager à nouveau, prendre position pour l'Éternel ce matin, puissent se lever pour l'exprimer, et je vais prier. Donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous lever, tout en gardant les yeux fermés, et je vais prier. Donc si vous voulez vous lever, faites-le maintenant. Voilà, Seigneur, ce matin, nous voulons nous lever devant toi, nous voulons prendre position, nous voulons choisir notre camp pour te servir jour après jour, que ce soit en cette année 2025, mais pour le restant de notre vie. On veut vraiment nous réengager avec toi, on veut penser à nous réengager chaque jour, chaque matin, Seigneur. On veut remettre chacune de nos journées, de nos pensées, de nos actions entre tes mains pour que tu puisses nous conduire et nous guider, Seigneur. Et puis, je prie aussi pour toutes les personnes qui ne se sont pas levées, qui n'ont pas encore fait ce choix de prendre position avec toi. On sait que tu les aimes, que tu veux le meilleur pour elles, que tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses apporter des réponses à leurs questions, Seigneur, et voilà, que tu puisses mettre des personnes sur leur chemin qui pourront les aider à faire ce choix d'être avec toi ce matin. Je vais finir de prier, je vous invite juste à vous rasseoir pour ceux qui se sont levés. Et voilà, je voudrais prier pour l'ensemble de cette assemblée aujourd'hui, pour l'église de Sonra, pour toutes les personnes qui sont présentes ce matin, moi y compris. Et je voudrais vraiment remettre cette année entre tes mains pour que tu nous accompagnes, que tu nous renouvelles, que tu nous donnes tes forces et que tu puisses nous bénir jour après jour, Seigneur. Aide-nous à te rester fidèles, à ne pas t'abandonner, à ne pas nous décourager, à ne pas nous détourner de toi, Seigneur, mais à prendre conscience que tu es là jour après jour à nos côtés. Merci pour ce temps que tu nous as donné ce matin, pouvoir nous recentrer sur toi et reprendre position avec toi, Seigneur. Et voilà, nous sommes heureux d'être dans ton camp. Au nom de Jésus. Amen.